Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, 19h, temps universel, c'est Sporama en direct de Washington pour parler évidemment de cette actualité sportive chargée sur le continent et sur la planète, notamment à quelques jours maintenant du début de la Coupe du Monde de football en Russie. On va y revenir bien évidemment. On rappelle que vous pouvez nous appeler en direct, le numéro de téléphone toujours le même, 001 202 205 26 33. C'est Georges Léonard Sagnot qui décroche son téléphone et qui prend vos appels. On se donne rendez-vous également sur la page Facebook de VOA Afrique. 4,5 millions de fans. On continue évidemment la conversation. On va saluer nos intervenants ce soir. Tout d'abord, depuis Kinshasa, le rédacteur en chef de Top Congo FM, notre station partenaire en RDC, Thierry Kambundi. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On salue également Amine Birouk avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Jules Valentin Goué est aussi là depuis Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on retrouve également Amdine Sy qui se trouve à Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine. Ah, on fait signe qu'on a Amédine dans quelques instants. On va saluer à présent Élisée Ongpatine. Élisée Ongpatine qui est au Bénin, à Boïcon. Bonsoir Élisée. Voilà, décidément, c'est un peu compliqué ce soir. On va essayer de reprendre ses esprits. On va bien évidemment parler de football, les listes des équipes qui sont retenues pour la Coupe du Monde de football, les 23, les listes des 23 qui commencent à être publiées, la date butoir, bien évidemment la date FIFA. On en sait un peu plus, et notamment sur Mohamed Salah. Vous vous souvenez qu'on avait eu bien évidemment des sueurs froides après cette finale perdue par Liverpool contre le Real Madrid. Mohamed Salah était sorti sur blessure, une blessure assez grave à l'épaule qui nécessitait 3 semaines d'interruption de jeu et de convalescence. Le joueur est actuellement soigné en Espagne. Eh bien, il semble, en tout cas, le mystère demeure, et la fédération égyptienne qui inclut Mohamed Salah dans la liste des 23. C'est important pour le moral. On sait que le pharaon a réussi une saison du tonnerre, qu'il est évidemment l'un des prétendants au Ballon d'Or. On va poser la question, bien évidemment, à Thierry Kambundi. Thierry Kambundi, qu'est-ce que vous faites de cette sélection de Mohamed Salah, qui devrait logiquement rater le premier match de la compétition, mais qui pourrait jouer les deux derniers matchs de groupe dans ce groupe A face à la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous faites de la présence de Mo Salah dans la liste des pharaons?
Écoutez Nicolas, au vu de l'importance qu'il revêt au sein de cette équipe nationale égyptienne et de la saison qu'il a sortie avec Liverpool, mieux vaut avoir un Mohamed Salah blessé qui rate le premier match de la phase des groupes, mais qui pourrait rejoindre le groupe, le 11 de départ lors des prochaines rencontres, avec espoir que l'Égypte atteigne le plus haut niveau possible, que de l'écarter de la course. C'est vrai que les prières de toute l'Afrique étaient que ce garçon se rétablisse vite. Comme Didier Drogba, rappelez-vous, à la CAN il y a quelques années, qui a connu la même blessure pratiquement que Mohamed Salah, mais qui a été très très vite rétabli et qui a retrouvé la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc on espérait que Mohamed Salah puisse être retrouver le 23 et très vite se rétablir. Il est en train d'être pris en charge par le staff médical des pharaons et on espère très vite le voir. Donc c'est logique pour lui de se retrouver dans cette liste des 23 et, avec l'espoir et avec beaucoup de soins auxquels il bénéficie, il pourra très vite retrouver cette sélection.
Oui, Jules Valentin Goué, qu'est-ce qu'on attend de cette sélection égyptienne? On le dit, face au pays organisateur, bien évidemment la Russie qui pourrait avoir un sursaut et avoir un beau parcours devant son public, l'Uruguay bien évidemment d'Edinson Cavani, de Luis Suarez et l'inconnu, peut-être l'adversaire le plus prenable, en tout cas l'Arabie Saoudite dans ce groupe A. Qu'est-ce que vous attendez des pharaons qui reviennent, on le rappelle, en Coupe du Monde après leur dernière participation, c'était en Italie en 1990.
Oui, c'est bien de rappeler qu'ils ont souvent été qu'ils ont été à la Coupe du Monde et généralement leurs prestations n'ont jamais été ridicules. Les équipes d'Afrique du Nord représentent régulièrement l'Afrique de manière constante en étant au niveau de la compétition. Et là, dans cette poule qui est très équilibrée, où peut-être seule l'Arabie Saoudite est un cran un peu en dessous. Et l'Égypte a toutes les chances de pouvoir se qualifier à égalité avec la Russie et l'Uruguay. Je pense que le jeu collectif des Égyptiens est un atout que nous aurons l'occasion d'apprécier une fois de plus pendant cette Coupe du Monde, Salah ou pas Salah.
Ah, merci beaucoup, Jules. Valentin Nguyen, on part évidemment sur le Maroc, Casablanca, pour retrouver Amine Merouk. Amine, le Maroc, on va en parler dans quelques instants, qui a dévoilé également sa liste des 23, mais le Maroc qui joue un match amical en ce moment à Genève, match de préparation. Hein.
Match de préparation devant la Slovaquie, c'est la deuxième sortie amicale avant le Mondial. Il y a eu un premier test jeudi dernier devant la sélection ukrainienne qui s'était soldé par nul 0-0 avec une impression mitigée. Aujourd'hui, il y a léger mieux. Hervé Renard teste avant tout son 11 type. L'impression, c'est qu'il est beaucoup plus focalisé sur le premier match devant l'Iran que sur les deux autres confrontations. Peu de changements en deuxième mi-temps. Et pour le moment, l'équipe du Maroc presse, se crée quelques occasions, notamment sur des frappes de loin de Ziyech. Une d'entre elles en début de première mi-temps avait touché le poteau. Et l'équipe du Maroc continue à presser cet adversaire qui est la Slovaquie. On rappelle que les Slovaques avaient terminé deuxième de leur groupe derrière l'Angleterre. Ils avaient figuré dans la catégorie des moins bons deuxièmes et n'avaient pu disputer les barrages qualificatifs pour le Mondial 2018. Une équipe au complet avec Skriniar, avec Hubokan, avec Hamzik bien évidemment, et qui sert de sparring partner à cette équipe du Maroc, qui va devoir bien évidemment faire preuve de plus de pertinence sur le plan offensif. C'est peut-être là où le bas blesse pour le moment, une équipe qui se crée des occasions mais qui n'arrive pas à les matérialiser. Il est vrai que Khalil Boutayeb est isolé en pointe. Peut-être un changement pourrait être effectué par Hervé Renard, sans faisant entrer Boadoz en pointe, sans comptant sur Ayoub Kabi, un des rares joueurs locaux sélectionnés par Hervé Renard pour cette Coupe du Monde. L'équipe du Maroc va d'ailleurs poursuivre sa préparation puisque samedi prochain il y aura un dernier test amical à Tallinn en Estonie avant de débarquer dans la région de Voronezh où se déroulera la préparation ultime de l'équipe du Maroc avant la Coupe du Monde 2018. Le Maroc, on rappelle, figure dans un groupe très compliqué. Tout dépend de son entame de compétition lors du deuxième jour du Mondial face à l'Iran, avant bien sûr d'affronter l'ogre portugais et le matador espagnol.
Alors ça, on va en reparler dans quelques instants. On va peut-être revenir avec vous, Amine, avant de développer, revenir sur cette liste des 23 des Lions de l'Atlas, qui comporte, si je ne m'abuse, notamment la présence de Mehdi Benatia et Younes Belhanda, mais ça c'était attendu. Et on a également l'intégration de l'attaquant de Malaga, Youssef An-Nesyri, réserviste lors de la première liste. Cet attaquant, un faible groupe qui pousse un peu finalement le défenseur du Raja de Casablanca, Badr Bennoun. Avant de vous entendre, on va écouter le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard.
C'est toujours des choix difficiles, mais quand on est entraîneur, il faut faire ses choix en son âme et conscience, être le plus droit possible quand on l'annonce aux joueurs, leur donner des explications qui sont rationnelles. Et même si parfois ça peut déplaire, de toute façon l'intérêt général, l'intérêt collectif est ce qui prime en avant. Donc voilà, avoir un groupe équilibré avec des joueurs qui sont susceptibles d'être polyvalents aussi, c'est ce qui permet de parer à toute éventualité dans la compétition.
De parer à toute éventualité dans la compétition, comme le dit Hervé Renard. Voilà, on retourne avec Amine Merouk. Amine, on le disait, évidemment, deux équipes européennes costauds, le champion du monde 2010 et le champion d'Europe en titre. C'est vraiment ce match capital face à l'Iran qui va déterminer peut-être la suite de la compétition, puisqu'avec une victoire et un mauvais résultat d'un des deux ogres de ce groupe, finalement, ça pourrait pousser pour le Maroc. Pour la suite de la compétition.
Tout à fait, Nicolas, puisqu'il y aura juste après Maroc-Iran, dans la même journée, un Espagne-Portugal, aux allures de quart de finale ou de demi-finale de Coupe du Monde. Et pour revenir à la liste, Youssef An-Nesyri, tout à fait figuré dans la liste des réservistes. Ils étaient 26 en début de concentration, 25 puisqu'Hakimi les a rejoints après la finale de la Ligue des Champions. Et visiblement, sur les quelques entraînements qui ont eu lieu à Crans-Montana, l'impression c'est que An-Nesyri était peut-être plus volontaire, qu'il a fait le nécessaire pour pouvoir convaincre, changer l'avis du sélectionneur national. On rappelle qu'il avait fait partie des 23 pour la dernière CAN au Gabon, puis qu'il avait disparu des tablettes du sélectionneur sur les 4 dernières rencontres. Il avait même été dégradé puisqu'il avait fait partie des espoirs marocains sur plusieurs rassemblements en même temps que lorsque les A jouaient leurs matchs, bien évidemment. Et puis, sur les derniers matchs de la Liga, il avait fait bonne impression avec l'équipe de Malaga qui perd quand même sa place parmi l'élite du football espagnol. Et visiblement, il a remonté la vague alors qu'il était au plus bas en tout début d'année. Pour le moment, c'est Badr Benoud, le joueur du Raja de Casablanca, qui est arrière central de métier, qui fait, je dirais, fait figure de victime dans ce choix d'Hervé Renard. Il avait jusqu'à ce soir pour pouvoir changer une partie de son effectif. Il a fait un choix. Il mise sur la polyvalence du joueur de camp, de Youssef Eid Bennasser, pour pouvoir suppléer en cas de défaillance de Benatia, Da Costa ou Saïs dans l'axe de la défense, et privilégier l'aspect offensif, puisque Nsiri peut jouer soit en pointe, soit derrière l'attaquant, soit sur le côté gauche, ce qui offre une palette de solutions supplémentaires sur le plan offensif à Hervé Renard. Il en aura bien besoin face à l'Iran avant d'entamer, je dirais, ces deux cols que sont le Portugal le 20 juin et l'Espagne le 25.
Merci beaucoup, Amine. Bien qu'on va saluer Élisée Oupatine, hein, qui est arrivée depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VO Afrique.
Alors Élisée, on va peut-être rester avec nous puisqu'on va parler du Nigeria. Là également, la liste des 23 est connue, hein, évidemment, pour les hommes de Gernot Rohr, les Super Eagles qui disputent leur troisième Coupe du Monde d'affilée, la sixième au total selon mes petits calculs. Les Super Eagles qui ont dévoilé leur liste, notamment Wilfried Didi qui est là, Alexis Bobby ou encore Victor Moses. Et peut-être revenir avec vous, hein, sur cette défaite de Buzyn en amical face aux Anglais qui seront également présents à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous faites de cette préparation des Nigérians qui, on le rappelle, seront dans un groupe évidemment pas facile, hein, face notamment à la Croatie, l'Islande et surtout l'ogre argentin qui affronte souvent le Nigeria lors des Coupes du Monde.
Oui, hein, Nicolas, hein, quand le Nigeria affronte souvent l'Argentine, ça ne se termine pas bien. On se rencontre de la confrontation en 1994, en 1998, en 2002 et même lors de la dernière Coupe du Monde. Il faut dire que ça s'est souvent mal passé. La seule fois où le Nigeria s'est bien comporté face à l'Argentine, c'était lors de la catégorie des espoirs, les Jeux Olympiques de l'Atlanta en 1996, où la bande à Nwankwo Kanu s'est bien comportée et remportée le titre final de ces Jeux Olympiques. Donc c'est souvent difficile. Maintenant, le Nigeria est en train de rentrer une préparation difficile. Peut-être ça peut amener Gernot Rohr à avoir une équipe solide pour cette rencontre de poule, puisque là, ce sera très difficile contre l'Argentine, même la Croatie qui a perdu contre le Brésil en amical hier. La Croatie a aussi une très bonne sélection. L'Islande, on les a vus lors de la dernière Coupe d'Europe des Nations. C'est une équipe très difficile à manœuvrer. Tactiquement et physiquement, c'est une équipe qui est au point. Maintenant, Gernot Rohr a dû sacrifier des joueurs au profit. En tout cas, vu la prestation de ces derniers lors de ces deux rencontres amicales contre la RD Congo 1-1 au Nigeria, et puis la défaite contre l'Angleterre qui fait partie des favoris pour le titre final. C'est vrai que les Anglais en première partie ont vite déroulé, et en seconde partie, les Nigériens se sont retrouvés, mais ce n'est pas encore ça, puisque au niveau de l'attaque, il reste beaucoup de choses à voir. Et dans ce genre de compétition, il faut être réaliste. En deux occasions, il faudra vite marquer pour pouvoir garder cet avantage. Le Gernot Rohr doit comprendre ça, mais c'est une très bonne sélection des 23 joueurs qu'il a retenu, puisque c'est vrai que on a les habitués. Il y a aussi le meilleur buteur du championnat nigérian, Lokota, qui devait être parti de cette ligne, mais il a été blessé. Et sinon, Gernot Rohr a fait confiance à un effectif qu'il a utilisé durant toutes les éliminatoires.
Merci beaucoup. Allez, on va partir à Dakar, retrouver Amdine Sy. Amédine, on suit cette préparation sénégalaise finalement, et encore un match nul notamment. On collectionne les matchs nuls pour la bande d'Aliou Cissé. Hein.
Tout à fait, Nicolas Pinon. Les doutes persistent du côté sénégalais une fois de plus. Le Sénégal ne perd pas, mais ne gagne pas non plus et ne marque pas de but, et surtout face à une modeste équipe de l'Istanbul, car dans la série des matchs nuls, il y a eu l'Ouzbékistan, un but partout à Casablanca, puis il y a eu la Bosnie-Herzégovine.
Ah, c'est pas facile à dire.
Partout au Havre, et maintenant l'Istanbul, c'est le dernier. Il faut dire que le coach de l'équipe nationale a lucidé ce cercle. Face au Luxembourg, Aliou Cissé avait aligné un 11 inédit mélangé de titulaires et de remplaçants, avec les Khadim Diaye, Moussa Wagé, Khalidou Koulibaly, 6, etc. Il a essayé Mbaye comme meneur de jeu et je pense que ça n'a pas marché. Il faut dire que les Sénégalais commencent à désespérer de leurs équipes à quelques jours de la Coupe du Monde, ce qui n'est pas du tout rassurant. Mais heureusement, la seconde période a été un peu mieux. Mais on va voir ce qui va se passer puisqu'il reste encore des matchs, puisque le Sénégal va jouer le 8 contre la Croatie. Ce sera un test grandeur nature, hein, parce qu'on a vu la Croatie qui a perdu face au Brésil et la Croatie n'avait pas du tout démérité hier. Donc, il aura fort à faire face à la Croatie parce qu'il faut rassurer les Sénégalais avant la Coupe du Monde. Vous le disiez, les 23 jours, la liste officielle vient d'être officialisée. Au niveau du Sénégal, pas de changement. Les quatre réservistes vont rester à la maison et Alutité va faire avec les 23. Il y a eu quelques blessés lors de ce match contre le Luxembourg. C'était Mambiram, double attaquant de Sotité. C'était Salutis, le latéral gauche de Valenciennes et le faux follet de Rennes, Ismaël Sarr. Dieu merci. Ils ont retrouvé le groupe. Ils se sont entraînés avec les Lions du Sénégal hier et ils s'entraînent aujourd'hui. Maintenant, c'est à Alutité de trouver la bonne formule parce que le Sénégal n'a pas droit à l'erreur puisque le Sénégal avait réussi pour la première fois en 2002 de faire une performance extraordinaire. On se rappelle encore de ça. Donc, ils sont avertis, les Lions de la Teranga. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Nicolas Pino.
Merci beaucoup. Amdissi, on va marquer une pause hein, dans ce Sporama. On se retrouve tout de suite. Voilà, on parle à présent évidemment de ce vote qui va arriver à Moscou, le vote tant attendu. Peut-être, on va demander ça à Amine Birouk, mais peut-être que ce vote c'est peut-être plus important même que la participation des Lions de l'Atlas. Le vote pour l'attribution de la Coupe du Monde 2026. À ma gauche, le Maroc, à ma droite, la tri-candidature entre le Canada, Mexique et les États-Unis. La Task Force qui a rendu son rapport et qui autorise le Maroc à compétir, à rentrer en compétition pour ce vote final. Alors, beaucoup de gens se sont satisfaits, mais finalement, Amine Birouk, le diable est dans les détails. Est-ce que les notes rouges et le haut risque attribué à la candidature marocaine, concernant les stades, concernant les transports notamment, est-ce que c'est pas un tacle à la gorge qui finalement met déjà en péril la candidature avant le vote ?
C'est un tacle à la gorge sous forme de recommandation, mais l'essentiel, c'est d'avoir réussi à avoir une note supérieure aux 2 sur 5 qui aurait pu éliminer d'emblée la candidature du Maroc. Aujourd'hui, les présidents d'associations nationales, le conseil de la FIFA, en toute première instance, puis les présidents des associations nationales, ont des recommandations. Elles peuvent juger in situ et surtout juger sur pièce le travail qui a été fait par la Task Force. Il est vrai qu'il y a quelques zones d'ombre, on s'y attendait. Le Maroc a des lacunes au niveau des terrains ou des stades de football, au niveau des accommodations, et puis bien évidemment, il y a la possibilité bien sûr de voir aussi la partie pleine du verre, c'est-à-dire tout ce qui concerne les médias, tout ce qui concerne l'écologie, les droits de l'homme. En tout cas aujourd'hui, avec 2,7, le Maroc est habilité à rentrer dans la cour des grands. Il va falloir aller chercher ses 104 votes, ce ne sera pas facile, et bien évidemment, il faudra aussi faire preuve, de pertinence au moment de chercher à convaincre les fédérations nationales. Le Maroc, pour rappel, est candidat pour la 5e fois. Il y a des règles d'alternance qui ont été bafouées par la FIFA. Aujourd'hui, on dispute une Coupe du Monde à 48, mais le profil mercantile en faveur, la FIFA aujourd'hui est en faveur des profils mercantiles. C'est ce qu'offre la candidature United des trois nations nord-américaines. Le Maroc propose un projet diamétralement opposé. C'est à lui aujourd'hui de convaincre. Ce sera une question de lobbying, ce sera une question de travail au corps par rapport aux candidatures, ce sera aussi un travail de diplomatie sportive. C'est ce que le Maroc s'échine à faire depuis le lancement de sa candidature. On verra maintenant si les quelques soutiens déclarés vont je dirais, transformer cet essai, ou bien on restera avec l'eau à la bouche. Pour le moment, ce qui compte pour la candidature marocaine, c'est avoir réussi à passer un premier cap. Il était quasiment éliminatoire. On s'attendait à perdre d'emblée le 31 mai. Aujourd'hui, c'est une chance qui est offerte. Peut-être qu'il y a un pressing de la dernière heure de la part des représentants de la candidature du Maroc. Je sais d'après mes échos qu'il a été question de batailler avec les membres de la task force jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, avec 2,7 contre 4 sur 5 pour les États-Unis, il y a un premier, je dirais, un premier tour qui a été franchi.
Alors, attends, on va entendre. Amine, on va peut-être donner la parole aux autres également. On va poser la question à Thierry Kamboundi. Thierry Kamboundi, concernant ce passage du premier test important pour la candidature marocaine, qu'en pensez-vous?
Thierry, Amine nous a tout décrit. Nicolas.
Oui, allez-y.
Allô? Je disais donc, Amine a très bien décrit la situation. Moi, je l'ai dit il y a quelques semaines que je reste pessimiste parce que les règles d'attribution de cette Coupe du Monde ont été bafouées. Le Maroc ne part pas favori, mais le lobby qui l'a mené et la pression qui est en train d'une certaine manière d'exercer l'Afrique, on l'espère, va booster cette candidature du Maroc. Ici, en République démocratique du Congo, la Fédération congolaise de football, la Fédération, a signé un communiqué il y a quelques jours pour annoncer son soutien à la candidature du Maroc. C'est le cas de plusieurs fédérations d'Afrique. On essaie de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, Nicolas, pour tout vous dire, à partir du moment où les règles n'ont pas été respectées, à partir du moment où le Maroc ne part pas avec la faveur des pronostics, malgré sa 5-6 tentative, je ne vois pas comment cette nation africaine réussira à décrocher l'organisation de la Coupe du Monde en 2026.
Allez, on va aller du côté de Libreville. Jules Valentin, votre sentiment avant ce vote crucial la semaine prochaine à Moscou? Jules Valentin Ngo, est-ce que vous nous entendez à Libreville?
Oui, c'est déjà une demi-victoire que le Maroc a été retenu enfin pour la décision finale, mais il faut pas être trop optimiste et plutôt faire une projection dans le futur en sachant que peut-être c'est dans une candidature commune avec les autres pays du Maghreb qu'il y aura un peu plus de chances d'avoir cette beaucoup de participants.
Oui, on va aller du côté de Boyko au Bénin. Elise Oupatine, sur ce vote à venir de la FIFA, est-ce que vous croyez quand même aux chances marocaines? Elise Oupatine. Alors, on va me faire signe derrière la vitre. Voilà, allez, on va arrêter, on va mettre carton jaune parce que là, c'est compliqué pour faire l'émission. On va continuer. Pour vous donner les résultats de NBA et pour vous dire évidemment que Golden State a remporté le deuxième match de la soirée 122 à 103 avec notamment 30 points de l'incontournable Stephen Curry. 2-0 pour les Warriors qui peuvent évidemment légitimement espérer pouvoir remporter ce titre NBA qu'ils ont déjà conquis en 2015 et 2017 et peut-être le MVP, le titre de meilleur joueur de cette finale pour Stephen Curry, mais bien évidemment le grand LeBron James qui rôde et qui est quand même magistral. On va vous donner un résultat de tennis pour vous dire que Serena Williams est forfait pour la suite du tournoi. Elle a déclaré forfait avant son 8e de finale face à la Russe Maria Sharapova, l'américaine de 36 ans. Vous vous en souvenez, avait mis entre parenthèses sa carrière, notamment pour donner naissance à son premier enfant. Voilà, vous êtes toujours avec nous sur VOA Afrique. Ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va saluer Thierry Kamboundi qui est à Kinshasa, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas.
On va remercier également Amine Birou qui était avec nous depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, et à lundi prochain.
On va saluer également Jules Valentin Goué à Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à bientôt.
Élisée Oupatine était avec nous depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, et à lundi prochain.
Et enfin d'ici depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas Pinot et à lundi prochain pour notre numéro de Sporama.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. La mise en onde assurée par Georges Léonard Sagnon, Nicolas Pinot à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.